le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous nous rendrons tout d'abord au Venezuela où le président élu, Nicolas Maduro, s'est emparé hier de la dernière institution qui échappait à son pouvoir grâce à des élections non seulement marquées par une très forte abstention, mais par ailleurs largement rejetée par la communauté internationale.
Négociateurs britanniques et européens vont à nouveau tenter dans les toutes prochaines heures, Thomas, de conclure un accord commercial post-Brexit.
Oui, sauf que l'ampleur du fossé entre les deux parties reste abyssale et que l'heure tourne avant la fin de la phase dite de transition, toujours prévue le 31 décembre.
Le président Emmanuel Macron recevra aujourd'hui son homologue égyptien, partenaire stratégique de la France.
Une visite controversée sur fond de défense des droits de l'homme. Toujours en France, le gouvernement doit présenter aujourd'hui et demain aux citoyens les différentes options retenues parmi les 149 propositions de la Convention Climat. Par ailleurs, à 10 jours de l'échéance, les dernières données sur le nombre de nouveaux cas de contamination font état de chiffres largement supérieurs aux objectifs du gouvernement pour autoriser la fin du confinement. Et puis à l'occasion de la grande journée de solidarité de la SACEM, en soutien à ses membres et plus largement à tous les professionnels de la scène française, nous recevrons son directeur général Jean-Noël Tron. Ce sera dans une quinzaine de minutes. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Bah, c'est une semaine très européenne, vous l'avez évoqué Thomas, avec le Brexit qui est en question pour l'instant. Nous allons aussi poursuivre ce sujet avec notre invité, l'ancien eurodéputé vert Daniel Cohn-Bendit, et lui demander si la crise sanitaire a, à ses yeux, rapproché le couple franco-allemand, relancé la coopération, l'axe Paris-Berlin. Nous serons ensemble dans une vingtaine de minutes.
Merci. Et à tout à l'heure. Au Venezuela, le résultat des élections législatives organisées hier était aussi attendu que ses effets demeurent encore incertains. Attendu tout d'abord car les principaux partis d'opposition ayant appelé à boycotter ce scrutin, il ne faisait aucun doute que les chavistes du président élu Nicolas Maduro n'auraient aucun mal à récupérer la seule institution qui échappait encore à leur pouvoir hégémonique. Incertain ensuite, car le leader de l'opposition, aujourd'hui en perte d'influence, jouait là son va-tout en espérant que la faible participation, à peine 30%, contredirait à elle seule l'importance de ce rendez-vous présenté comme historique par le régime. Or, si pour Juan Guaido, le rejet majoritaire du peuple vénézuélien saute effectivement aux yeux, à quoi peut-il s'attendre à présent? Il peut certes aisément compter sur les condamnations de la communauté internationale. En revanche, a-t-il véritablement les moyens de raviver le soutien d'une population aujourd'hui excédée par une crise économique sans fin? Élément de réponse avec Olivier Poujade.
Une nouvelle fois, il y a de quoi s'interroger sur la pertinence de l'option choisie par Juan Guaido avant ces élections. Même si 70% des Vénézuéliens inscrits ne sont pas allés voter, même si symboliquement cette victoire de Maduro n'est pas représentative, aucun seuil minimum n'est requis pour invalider le résultat du scrutin. Juan Guaido se retrouve donc aujourd'hui sans aucun mandat, à l'issue d'une année particulièrement laborieuse pour lui. Une décision cette année de la Cour d'appel britannique lui a barré la route pour disposer des 30 tonnes d'or vénézuélien stocké à la Banque d'Angleterre, des ressources financières cruciales pour poursuivre son combat face à Nicolas Maduro. Juan Guaido reste encore aujourd'hui reconnu par une cinquantaine d'États dans le monde comme chef de l'État vénézuélien par intérim, mais l'enthousiasme des premiers mois s'est essoufflé depuis trop longtemps. Ses prises de parole ne trouvent plus d'écho à l'extérieur du pays et son principal allié, Donald Trump, ne sera bientôt plus président. Guaido a incarné la ligne dure de Trump au Venezuela, une politique de sanctions économiques drastiques, une stratégie d'opposition frontale qui s'est avérée stérile. Avec l'investiture de Joe Biden en janvier, l'objectif sera le même, mettre Maduro sous pression pour imposer une transition démocratique, mais les outils de sanctions seront sans doute plus ciblés, un retour à des négociations serait même envisagé, donc une réouverture du canal diplomatique semble probable entre le pouvoir maduriste et la nouvelle administration américaine. Sur ce nouvel échiquier, la place occupée par Juan Guaido est aujourd'hui encore plus incertaine.
Même si, outre-Atlantique, une flambée des cas de contamination au coronavirus était anticipée par les autorités sanitaires en conséquence des fêtes de Thanksgiving, les chiffres n'en restent pas moins vertigineux. 230 000 nouveaux cas et plus de 2500 morts pour la seule journée de samedi. Alors ce triste bilan en éclaire un autre. Le Royaume-Uni, pays le plus durement touché en Europe par la pandémie, sera aussi le premier pays occidental à entamer cette semaine sa campagne de vaccination. Une semaine d'ores et déjà qualifiée d'historique numérique par le ministre britannique de la Santé. Si jusqu'à présent la dernière ligne droite des négociations post-Brexit avait tout d'une route sans fin, voilà que le stress commence à se faire sentir au moment de négocier l'ultime virage. Samedi dernier, la présidente de la Commission européenne et le premier ministre britannique ont eu beau exhorter les négociateurs à effectuer un dernier effort. La sortie de piste comprenait une sortie du Royaume-Uni de l'UE sans accord reste encore l'horizon le plus probable. Alors les deux négociateurs en chef vont malgré tout se retrouver à nouveau aujourd'hui à Bruxelles dans l'espoir d'ouvrir une voie de secours, mais y croient-ils encore eux-mêmes? Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors on le sait, plusieurs sujets continuent de bloquer les discussions, au premier rang desquels la pêche, mais ce n'est sans doute pas là le point le plus difficile à régler au regard par exemple du mécanisme de respect des litiges et surtout, Angélique, des règles de concurrence.
Oui, c'est le sujet sur lequel on a encore bloqué la nuit dernière et sur lequel on sent les deux parties vraiment irréconciliables. Bruxelles dit clairement aux Britanniques, on vous laisse vendre vos produits chez nous en Europe, dans ce vaste marché de 450 millions de consommateurs, comme avant, donc sans quotas ni droits de douane, mais à condition que vous preniez des engagements à ce que les normes de production industrielle ou agricole ne s'éloignent pas des nôtres. Au début, les 27 imaginaient, comme ils l'ont fait avec d'autres partenaires commerciaux, un alignement dynamique de ces normes, en clair qu'il n'y ait pas de divergence dans le temps, alors que vous le savez, elles vont se durcir avec les ambitions écologiques de l'Union européenne. Mais Londres en fait un sujet de souveraineté. On n'a pas quitté l'Union pour en garder les contraintes, répond sans discontinuer le Premier ministre Boris Johnson. Bruxelles a donc proposé récemment un compromis en acceptant finalement que ces règles puissent diverger, mais en instaurant un mécanisme de compensation pour faire court, une sorte de taxe a posteriori dans certains secteurs en cas de dérapage. Nouveau refus clair de Londres, hein, ces dernières heures. Les Européens estiment qu'ils ont été au bout des concessions possibles. Nous sommes à un millimètre de nos lignes rouges. Personne ne veut un accord à tout prix qui mettrait en danger nos économies, explique-t-on ici. Le Royaume-Uni, ce n'est pas le Canada. C'est un pays voisin avec un marché du travail hyper flexible, des capacités d'innovation exceptionnelles, rappelle un diplomate. Nous aurons un concurrent à nos portes, avait prévenu la chancelière allemande Angela Merkel au tout début de cette négociation. Alors, si l'on a senti l'unité des Européens se fissurer quelque peu la semaine dernière sur la question de la pêche, qui concerne qu'une dizaine d'États sur 27, et bien sur ces règles de concurrence, le bloc, lui, semble très solide.
Merci Angélique Boin en direct de Bruxelles. En Roumanie, les sociaux-démocrates ont créé la surprise en arrivant en tête hier des élections législatives, écartés du pouvoir fin 2019 sur fond de contestation massive dans la rue, mais aussi de critiques de Bruxelles visant des atteintes à l'état de droit. Ils ont recueilli près de 30% des suffrages. En revanche, le jeu des alliances devrait permettre aux libéraux de rester au pouvoir et former le futur gouvernement. Réputé pour être un exemple de démocratie et de stabilité en Afrique de l'Ouest, une région pourtant secouée encore cette année par des scrutins contestés et violents, le Ghana a vu s'ouvrir ce matin ses bureaux de vote. Plus de 17 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour élire leur président. Ils auront le choix entre 12 candidats, dont 3 femmes. La magistrature suprême devrait toutefois se jouer entre le chef de l'État sortant et son rival de toujours, l'ancien président John Mahama. Figure centrale du mouvement de protestation populaire en Algérie, l'opposant Karim Tabou a été condamné ce matin à un an de prison avec sursis pour atteinte à la sûreté nationale. Rappelons qu'au printemps dernier, ce visage très populaire du Irak, chef d'un petit parti d'opposition, avait déjà été condamné en appel à un an de prison ferme pour le même chef d'accusation, peine qu'il a déjà purgée. 10 ans après le printemps arabe, les aspirations de millions de manifestants ne sont parfois qu'un lointain souvenir. Parmi eux, des dizaines de milliers croupissent en prison quand ils ne sont pas morts. Et c'est le cas notamment en Égypte où l'autoritarisme n'a pas été vaincu, le pouvoir en place ayant méthodiquement réprimé toutes les voix dissidentes. De quoi provoquer un certain malaise alors même que le président égyptien, le général Al-Sisi, doit être reçu aujourd'hui à Paris par Emmanuel Macron. Alors précisons que l'Égypte reste un client privilégié des vendeurs d'armes français. Fallait-il pour autant lui dérouler le tapis rouge? Omar Waman a joint Céline Lebrun, l'épouse de Ramissat, l'une des figures du printemps arabe, aujourd'hui en détention préventive et dont les autorités françaises ont réclamé sa libération. Dès lors, pourquoi accueillir celui-là même qui l'a jeté en prison? Selon Céline Lebrun, cette visite révèle sinon une forme de cynisme, à tout le moins une certaine ambiguïté de la part des autorités françaises.
Une ambiguïté... Oui, en tout cas, disons que je suis déçue. J'aurais aimé que la libération de mon époux soit une condition préalable à cette visite, car aujourd'hui, on parle d'une famille française qui est directement touchée par cette répression, qui touche par ailleurs des milliers d'autres familles en Égypte. Et voilà, il me semblait important que notre famille puisse enfin être réunie avant que le président Sissi puisse être accueilli en France.
Que savez-vous de ces conditions de détention ?
Alors, mon époux aujourd'hui est détenu dans une cellule de 25 mètres carrés. J'insiste sur ces 25 mètres carrés, c'est important qu'on les ait en tête. Et ils sont 13 co-détenus dans cet espace qui contient également un petit coin cuisine et une douche qui fait aussi office de toilette puisqu'il y a un trou au milieu. Voilà, donc pendant que le président Abdel Fattah el-Sissi dort dans un... probablement, j'imagine, un hôtel de luxe à Paris. Mon époux, lui, dort sur le sol d'une prison surpeuplée en Égypte. Ce que j'espère aujourd'hui, c'est qu'avec cette visite, la France réussira à obtenir enfin cette libération.
Voilà, Céline Lebrun, l'épouse donc de l'opposant Rami Eshaat, joué au téléphone par Omar Waman. Comment lutter contre le séparatisme? Le projet de loi du gouvernement sera présenté mercredi en Conseil des ministres. Et parmi les mesures proposées, il en est une en particulier qui fait débat. Rendre l'école obligatoire à la rentrée 2021, ce qui reviendrait à supprimer l'instruction à domicile. Sauf qu'une telle interdiction serait inconstitutionnelle, a déjà prévenu le Conseil d'État, qui a donc demandé à Matignon de revoir sa copie. Alors le gouvernement n'est pas tenu en réalité de suivre cette position. En revanche, s'il persistait, il prendrait un risque à la fois juridique et politique certain. Seule certitude, la prudence est aujourd'hui de mise, ainsi que l'explique Anne Coffinier, présidente de Créer son école Éduque France, jointe au téléphone par Hakim Kasmi.
Je pense que là, il y a une surréaction par rapport aux fuites qu'on a pu avoir sur le Conseil d'État, etc. Il faut voir la rédaction exacte qui va être retenue le 9 décembre, lorsque le projet de loi va être présenté au Conseil des ministres, et on va voir comment c'est. Mais soit ils renoncent à l'idée de l'interdiction complètement, et il reste un régime de déclaration éventuellement en renforçant les contrôles, pourquoi pas. Soit il passe à un régime d'autorisation et le régime d'autorisation va poser des problèmes constitutionnels. Soit il reste un régime d'interdiction avec des dérogations qui correspondent donc à interdiction avec autorisation pour des cas dérogatoires et c'est pas satisfaisant non plus. Donc il faut pas s'emballer. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'emballent trop vite en disant « ça y est, il a reculé ». C'est clair qu'il y a eu un camouflet au niveau du Conseil d'État qui lui a dit que ça n'allait pas parce que c'était fortement inconstitutionnel, très probablement inconstitutionnel, et surtout c'était pas justifié par des données chiffrées. On peut pas sortir la liberté de tout le monde sous prétexte qu'il y aurait quelques familles qu'on n'arrive même pas à identifier qui en feraient un mauvais usage.
Voilà, Anne Coffinier, présidente de Créer son école Éduque France. Elle répondait à Hakim Kasmi. Un peu plus d'un mois de la présentation de l'avant-projet de loi climat. Là aussi, la prudence est de mise. Depuis ce matin jusqu'à demain, le gouvernement présente les différentes options retenues parmi les 149 propositions de la Convention citoyenne. L'occasion également de faire redescendre la température après plusieurs jours d'échanges musclés entre d'un côté Cyril Dion, le garant de cette convention, et de l'autre Emmanuel Macron, le premier reprochant en clair au deuxième de ne pas respecter son engagement et de détricoter les mesures. Une bataille d'ego et des petites phrases qui ont l'air surtout de fatiguer certains membres de la convention. Damien Mestre a joint pour nous Grégoire Frati. Il fait partie des 150 citoyens qui ont participé à cette convention et vous allez l'entendre, il commence à s'impatienter.
Ça nous regarde pas à nous, nous ne sommes pas des politiques, pas des militants, on est juste des petits citoyens lambda à qui on a demandé de travailler. C'est un peu agaçant parce que c'est plus une guerre d'ego qu'un travail sur le fond. Pour le coup, la Convention citoyenne, elle a travaillé pendant des mois pour produire des mesures qui sont raisonnables, ambitieuses, qui sont scientifiquement prouvées, qui sont techniquement inattaquables. Enfin, on a fait vraiment un travail de fond, on n'a pas envie de se laisser cannibaliser par quelque chose qui tient plus de la forme. Donc oui, nous on se concentre sur le fond des mesures, c'est pour ça. Là, on attend les présentations du projet de loi. On pourra parler de fond, on pourra parler concret, et parce que c'est le concret qui pourra faire changer les choses pour le dérèglement climatique. Madame Pompili disait ce matin que ce projet de loi, c'est très très ambitieux, là où des associations plus militantes disent qu'on va être très très déçus. Donc, moi, je préfère juger sur pièce et j'attends de voir vraiment ce qu'il y aura dedans.
Voilà, Grégoire Frati, membre de la Convention citoyenne climat. Il était joué au téléphone par Damien Mestre. Si le nombre de patients en réanimation continue à refluer, en revanche, les cas de contamination par le coronavirus restent élevés en France. Plus de 11 000 en 24 heures. Autant dire qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, on est encore très loin, Sarah Derce, de l'objectif des 5000 cas fixé par le gouvernement pour autoriser la levée des mesures de confinement le 15 décembre.
Plus de 11 000 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés en 24 heures, un nombre largement au-dessus de l'objectif des 5 000 cas fixés par le gouvernement. Le taux de positivité, c'est-à-dire la proportion des personnes positives au Covid-19 par rapport au nombre total de personnes testées, ne baisse plus depuis 3 jours et s'établit à 10,7%. Le taux se situait autour de 20% il y a un mois. En revanche, le nombre de patients en réanimation a continué à refluer, 3 210 dimanche contre 3 220 la veille, selon les dernières données de Santé publique France. Le second objectif des autorités semble quant à lui atteignable avant le 15 décembre prochain. Par ailleurs, le nombre de morts est en baisse. 175 personnes sont décédées du virus hier, contre 216 samedi et 284 vendredi. Des chiffres qui semblent encore loin de l'objectif à atteindre et qui pourraient s'expliquer entre autres par un relâchement des mesures barrières.
Les assureurs étaient reçus ce matin à Bercy en visioconférence, mais de geler au moins les primes pour le secteur de l'hôtellerie-restauration l'an prochain. Un ultimatum fixé par Bruno Le Maire lui-même, qui les menaçait sinon de valider une taxe exceptionnelle votée au Sénat. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
La réunion avec les assureurs vient de s'achever et un accord, Anne-Laure, a finalement été trouvé.
Oui, un accord prévisible étant donné l'épée de Damoclès qui pesait sur les assureurs, une taxe d'un montant d'1,2 milliard d'euros. Face à cela, un gel de certaines cotisations était une solution beaucoup moins coûteuse, même si le patron d'AXA France dénonçait hier un chantage scandaleux. Les compagnies d'assurance ont donc accepté de ne pas augmenter leurs tarifs 2021 pour l'hôtellerie-restauration. Elles ont aussi donné leur feu vert à une stabilité des prix pour les secteurs de la culture, de l'événementiel, du tourisme et du sport. Une décision qui s'appliquera, précise le ministre de l'économie, aux entreprises allant jusqu'à 250 salariés. La profession s'est aussi engagée à maintenir les garanties contractuelles en cas de retard de paiement, tout comme à offrir aux salariés et chefs d'entreprise de ces secteurs une assistance gratuite en cas d'hospitalisation liée au Covid. Et puis, dernier point de cet accord, la médiation des assurances est étendue aux entreprises alors qu'elle était limitée jusque-là aux particuliers. Les contentieux se sont multipliés ces derniers mois entre restaurateurs et assureurs notamment. L'idée, c'est donc de tenter de limiter, via cette médiation, les recours en justice. Ce qu'on a aussi appris ce matin, Thomas, et c'est plutôt une surprise, c'est que le gouvernement renonce pour l'instant à créer un régime d'assurance obligatoire pour faire face aux risques pandémiques. On parle là de l'avenir. Le débat n'est pas mûr, dit-on dans l'entourage de Bruno Le Maire, qui avait pourtant beaucoup parlé de cette solution, car ça signifierait des hausses de cotisations pour les entreprises. Bercy évoque donc plutôt aujourd'hui l'idée d'une couverture sur mesure en fonction des besoins.
Merci Anne-Laure Jumet. Quand l'industrie musicale lance son appel à l'aide face à la crise sanitaire, après 9 mois sans presque aucun concert, aucun spectacle, aucun enregistrement de nouveaux disques, l'ensemble de la filière est dans une situation catastrophique jamais vue. Déclaration ce matin dans les colonnes du journal Le Parisien du directeur général de la SACEM, Jean-Noël Tron, également invité ce midi de la rédaction. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Maxime Tellier. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Alors rappelons peut-être pour commencer que la SACEM est chargée donc de collecter et de distribuer les droits d'auteur aux artistes, aux compositeurs et aux éditeurs de musique. Quelle est aujourd'hui, monsieur Tron, l'ampleur de la crise pour la filière musicale ?
La filière musicale, c'est pour ceux qui nous écoutent donner des ordres de grandeur simples, c'est 240 000 emplois en France, à peu près 8 milliards d'euros. Et on estime que l'impact de cette crise, sur la base d'une étude indépendante faite par le cabinet EY, va être une perte peut-être de la moitié, hein, 48% pour l'instant dans l'évaluation des revenus de la filière musicale française pour la période du Covid.
Question de Maxime Tellier.
Bonjour Monsieur Tron. Concernant la SACEM, le montant des droits d'auteur que vous percevez, que vous distribuez aux artistes, diminue également d'environ 30%. C'est l'autre chiffre clé pour bien comprendre l'ampleur de la crise.
Exactement. C'est-à-dire qu'au sein de cette filière musicale, il y a des métiers qui sont très connus. Vous avez cité les artistes interprètes, on pense aux maisons disques, aux salles de spectacle. Ce qu'on oublie, c'est que le premier maillon de la chaîne créative, ceux qui fabriquent la musique, ce sont les auteurs, les compositeurs de musique, puis leurs partenaires que sont les éditeurs de musique. C'est eux que la SACEM représente. La SACEM, c'est leur société, c'est une entreprise privée à but non lucratif. Et comme notre société ne fait pas de profit, nous n'avons pas de réserve, nous n'avons pas d'actionnaires pour amortir le choc. Donc, La chute des collectes en droit d'auteur est liée au fait que les commerces sont fermés, les festivals annulés, que les ventes des disques ou d'autres types de matériel sur lesquels les œuvres de nos membres sont jouées ont chuté. Et donc cet effondrement entraîne une crise très grave pour la société elle-même qui va avoir un déficit d'exploitation d'à peu près 30%. Quant aux auteurs-compositeurs et aux éditeurs eux-mêmes, leurs droits d'auteur vont baisser drastiquement du fait de la crise. Et ça, c'est essentiellement un impact en 2021, mais qui risque de se prolonger en 2022, d'où le cri d'alarme que nous lançons. Beaucoup d'aides ont été mobilisées. Très peu aujourd'hui portent sur l'indispensable compensation des pertes, perte de revenus pour des individus comme les artistes-auteurs ou perte d'exploitation pour des entreprises comme les éditeurs de musique.
Et pour bien se rendre compte, la SACEM compte 176 000 sociétaires. La moitié des sociétaires gagnent moins de 13 000 euros par an. C'est bien ça.
Oui, c'est ce qu'on oublie, c'est qu'il y a plusieurs milliers d'auteurs-compositeurs et éditeurs de musique qui sont des professionnels, qui ne vivent que de ça, et que bien souvent, un auteur-compositeur n'est pas intermittent du spectacle, souvent n'est pas interprète, donc n'a pas de cachet. Rares sont ceux d'entre eux qui sont salariés. Les éditeurs de musique elles-mêmes sont des entreprises extrêmement fragiles qui, c'est d'ailleurs scandaleux, n'ont pas accès au crédit d'impôt alors que les producteurs de disques et les producteurs de spectacles y ont accès depuis des années. Le Sénat, d'ailleurs, aujourd'hui a retenu la demande d'élargir enfin ce crédit d'impôt aux éditeurs et nous attendons que le gouvernement soutienne cette demande. Donc, cette fragilité de ce maillon fort qui est aussi le maillon faible, la SACEM l'incarne, elle qui est une société qu'on croit parfois être une institution, alors que je l'ai dit, c'est une société civile, une société privée, une société à but non lucratif. Ce que nous demandons, c'est que dans le budget 2021 qui va être présenté demain à la filière musicale pour le tout nouveau Centre national de la musique et qui devrait être de 170 millions d'euros, il y ait au moins une trentaine de millions d'euros au total entre le budget du CNM et éventuellement d'autres fonds du ministère de la Culture qui viennent compenser même en termes de filet de sécurité, toutes ces pertes.
Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que finalement, vous ne demandez pas tant d'aide en plus que cela, vous demandez surtout une meilleure répartition de l'aide, et notamment en direction du premier maillon de la chaîne que vous représentez, les créateurs de musique et de chansons.
C'est exactement cela. D'ailleurs, l'action que nous lançons aujourd'hui, puisque dans le cadre des économies drastiques que la SACEM a mises en œuvre, elle a annulé sa cérémonie des Grands Prix, c'est une décision que nous avions prise dès le mois de mai. C'est une action de solidarité avec toute la scène française, tous les métiers dont nous sommes solidaires. Beaucoup de nos artistes, auteurs témoignent aujourd'hui dans les médias de leur solidarité totale avec tous les métiers. Mais là, il faut vraiment que la priorité soit accordée aux maillons faibles. Sachant que les radios elles-mêmes ont un rôle à jouer. Je voudrais remercier d'ailleurs Radio France qui est partenaire de cette action de solidarité que nous menons aujourd'hui.
Et d'ailleurs, la cérémonie des Grands Prix de la SACEM qui devait avoir lieu aujourd'hui est annulée, et pas pour les raisons qu'on pense. C'est pas la crise sanitaire qui vous incite à l'annuler. C'était prévu à la salle Playel, mais les raisons économiques, ce qui montre bien l'ampleur de la crise.
Oui, alors c'était à Playel l'an dernier, ça devait être au Châtelet aujourd'hui. On passe de salle privée à de salle publique, et réciproquement, on l'a annulée, la mort dans l'âme. Mais quand on voit l'incroyable palmarès de cette année, une fois encore, on montre une évidence que peu de Français ont forcément en tête, c'est que jamais les talents français n'ont été aussi nombreux, ni d'ailleurs aussi présents à l'international. Aujourd'hui, Zola est dans le top 5 monde de Spotify. Donc le rayonnement de la France, son attractivité aussi, elle est liée notamment à ses talents créatifs. S'il n'y a pas des mesures fortes, complémentaires et centrées sur nos membres, la casse risque d'être telle que c'est peut-être une ou deux générations qu'il faudra pour rattraper le fait que certains vont arrêter leur carrière dans les mois qui viennent, ou que des éditeurs de musique vont mettre la clé sous la porte.
Donc vous craignez une génération sacrifiée, des dégâts irréparables. Un dernier mot très rapide, le retour peut-être des concerts, des tournées, ça pourrait être quand? Est-ce que vous avez des informations là-dessus?
Je n'ai aucune autre information que ce qui se dit dans les médias. Je suis très inquiet parce que s'il n'y a pas en janvier-février un calendrier de retour à la normale, évidemment dans le total respect des contraintes sanitaires, on ne pourra pas jouer les festivals cet été. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un festival, c'est pas comme une salle de cinéma.
Oui.
Un film peut mettre
s'il vous plaît.
2 ans à se tourner. Un spectacle, c'est pareil. Donc il faut, en rétro-planning, qu'en janvier-février, on puisse y voir clair sur un retour à la normale.
On l'a bien compris. Merci Jean-Noël Tron, directeur général de la SACEM, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Maxime Tellier. Et puis, en complément, je vous invite à écouter ou réécouter le reportage de la rédaction de ce matin consacré à la situation des boîtes de nuit et des DJ. L'électro en mal de discothèque, signé Anne Lamotte, est à retrouver sur franceculture.fr. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, généralement couvert et humide. Quant aux températures, elles afficheront entre 2 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumé. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.